Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je suis monté à la capitale avec ma valise et mes films Super 8 à l'intérieur. Et j'ai montré mes films Super 8 ici et là, dans des maisons de production, dans des journaux.
It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril, nombril. Cinema about your nombril. Only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite.
I live. Therefore I make film. I make film. Therefore I live. Life. Movement. I make home movies. Therefore I live. I live. Therefore I make home movies.
Bonsoir et merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau hors-champ sur Radio Campus Paris. Hors-champ consacré à Jonas Mekas, figure emblématique du cinéma expérimental et du milieu underground new-yorkais des années 60. Nous avons rencontré des gens passionnants et passionnés pour nous parler de ce cinéma tellement particulier qu'est le cinéma de Jonas Mekas. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce périple, j'ai le plaisir d'être avec Alain et Guillaume. Pour donc aborder toutes les facettes d'un personnage étonnant.
Qui est Jonas Mekas? Il est né en 1922 en Lituanie, dans une famille d'agriculteurs. En 1944, devant l'invasion de leur pays par l'Union soviétique, lui et son frère Adolfas fuient la Lituanie. Ils se retrouvent dans un camp de travail allemand dont ils s'évadent et se cachent jusqu'à la fin de la guerre. Leur errance va prendre fin en 1949 quand ils vont arriver à New York, où Jonas Mekas vit et travaille depuis cette date.
C'est à New York qu'il commence sérieusement à s'intéresser au cinéma en parallèle d'une kyrielle de petits boulots qu'il effectue pour subsister. Dès le début des années 50, il fréquente assidûment le cinéma du MoMA pour les classiques et le cinéma 16 d'Amos Voegele où il découvre le cinéma d'avant-garde. Il loue très tôt avec son frère Adolphas une caméra Bolex et commence à filmer tout ce qui l'entoure à la manière d'un journal filmé à la demande d'un ami galeriste. En 54, il lance la revue Film Culture pendant américain des cahiers du cinéma avant de se spécialiser dans le cinéma d'avant-garde. En 58, il a une rubrique régulière dans Village Voice sur le cinéma en général, où il défend tant les films de la Nouvelle Vague qu'Antonioni ou Aldrich. Il invitera en 62 un ami à s'occuper des films commerciaux pour se consacrer à l'écriture sur le cinéma indépendant. Par manque de temps essentiellement, car il lance la même année la Filmmaker Coopérative, dirigée collégialement par des cinéastes, dont le but est de distribuer tous les films qui lui sont soumis, en reversant la majeure partie des recettes aux auteurs. En 1964, il fonde aussi la Filmmaker Cinémathèque, qui devient l'Anthologie Film Archive, et qui détient l'une des collections mondiales majeures du cinéma d'avant-garde. Véritable promoteur touche-à-tout de son art, il fréquente Andy Warhol et sa troupe, Brackage, les Kennedy et Adam Sidney. Il s'implique complètement dans le cinéma d'avant-garde, allant jusqu'à se faire emprisonner pour avoir projeté des films interdits par la censure, Flaming Creature de Jack Smith et Un Chant d'amour de Genet. Parmi ses films les plus importants, on pourra citer Walden en 1970, Reminiscence of a Journey in Lituania en 71, Lost 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 en 76 et Paradise Not Yet Lost en 1980.
Donc si on a choisi de parler de Jonas Mekas aujourd'hui dans cette émission, c'est que d'une part, ses films sont visibles facilement, dans des rétrospectives, des hommages, mais aussi parce que est paru récemment aux éditions POL son journal, puisque c'est quelqu'un qui filme sa vie mais qui aussi l'écrit. Son journal de 1944 à 54 s'appelle « Je n'avais nulle part où aller ». Et donc dans ce journal, il parle de sa vie, de son rapport à la guerre qu'il a vécue et de son émigration vers les États-Unis. Enfin, c'est un livre tout à fait passionnant et nous avons eu envie de nous pencher sur le personnage Mekas et de voir pourquoi aujourd'hui ce personnage est toujours aussi fascinant pour une jeune génération qui fait des films. Nous avons donc rencontré un cinéaste, Philippe Cotte, Pip Chodorov, qui dirige les éditions Revoir, et nous avons rencontré Nicolas Bobert, journaliste.
manuel de cinéma amateur pour Caroline et John. Chapitre 1. Exercice sur le temps. Premièrement, filmer un arbre dans le vent pendant 10 secondes en continu. Filmer un arbre dans le vent par séquence brève de manière à condenser une minute de réalité en 10 secondes de film. Voir ce qui se passe. Deuxièmement, filmer un visage humain pendant 10 secondes en continu. Filmer le même visage par séquence brève de manière à voir 10 secondes de film. Voir ce qui se passe. Troisièmement, filmer le feu.
Cher monsieur Mécas, vous ne pouvez imaginer le bonheur que vous avez apporté à mes enfants et à moi-même. Un monde entièrement nouveau s'est offert à nous. Il aurait été suffisant de ne voir que vos films, mais nous avoir donné cette caméra magique, je m'inclus dans le « nous », car je suis tout aussi exalté que par la chose, si ce n'est plus. Je n'aurais jamais cru qu'une caméra pouvait faire tout cela, zoom avant et arrière, accéléré et ralenti, en étant si facile à tenir d'une main. Nous avons utilisé deux bobines en suivant vos instructions, le soir où Peter et Minnie nous l'ont apporté. J'espère que vous vous rendez compte à quel point vous nous avez tous rendus heureux, et comme il a été merveilleux de voir vos films et de vous rencontrer. Je suis sûre que vous avez touché un point sensible, et mes enfants ont bien de la chance que cela leur soit arrivé. Avec toute ma reconnaissance, Jacqueline Kennedy Onassis.
Passeur. Le terme colle à la peau de Jonas Mekas. Journaliste, archiviste, distributeur, cinéaste lui-même, toute sa vie, il n'aura cessé de vouloir faire passer son amour du cinéma.
Effectivement, ce rôle d'initiateur du regard et de la pratique du cinéma est prépondérante, comme nous l'ont expliqué Philippe Cotte et Pip Chodorov.
Arrivé à New York, après des années passées pendant la guerre, dans le désert, disons, il a commencé à voir tous les films.
Pip Chodorov, cinéaste et directeur des éditions Revoir.
Il s'est absorbé comme une éponge tout autour de lui et il a mis tout ça dans son cinéma. Donc il dit que ses films sont un produit de tout ce qu'il a ressenti lui-même. Donc, quelque part, quand on voit ces films, on ressent tout le milieu et toutes les pratiques.
Mekas a eu un rôle en fait, d'initiateur, un peu de passeur, disons. Donc, compte tenu de sa visibilité, parce que c'est quand même un cinéaste qu'on a l'occasion de voir quand même assez régulièrement. Et, donc, voilà,
Philippe Cotte, cinéaste.
Ça m'a donné envie de passer à la réalisation. Donc, j'ai acheté un caméscope, parce que je pensais qu'on pouvait plus du tout faire du cinéma en pellicule et j'ai commencé à filmer effectivement des choses qui m'entouraient quoi. Donc de mon environnement immédiat
aussi parce que lui-même il est vraiment passeur au sens propre du terme. Il a organisé des projections, il a organisé les distributions et il a publié Film Culture, une revue pendant 40 ans donc c'est vraiment quelqu'un qui veut faire connaître, veut partager les films qu'il aime avec ses amis d'abord mais avec tout le monde. Et il est critique de cinéma qui n'a jamais écrit sur un film qu'il n'aimait pas. C'est toujours positif chez lui. C'est pas pour dire qu'il aime tout, c'est pour dire que quand il n'aime pas quelque chose, il préfère ne pas en parler parce qu'il y a déjà trop de choses négatives. Donc il fait passer, il fait connaître, il partage une grande culture cinématographique autour de lui. Donc quand on voit ses films, on peut très bien s'inspirer de son cinéma et puis avoir envie d'aller voir d'autres.
Il est à la fois cinéaste, mais il est également initiateur d'un certain nombre de structures aux États-Unis et par ailleurs, puisque donc en France, les coopératives qui se sont créées en France se sont créées sur le modèle de ce qu'avait créé Mekas, en fait, Jonas Mekas, aux États-Unis.
Fantastique. See, Empire State Building in the blue evening light. Blue?
No, I don't think it's blue. I think it's kind of white.
You speak once again.
Pour discuter avec beaucoup de personnes, cette idée effectivement de rapport au présent, au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui travaille pas mal de personnes. Pour l'instant, on n'en voit pas tellement les résultats, mais c'est peut-être une question aussi de maturité, parce que je pense que pour travailler sur son quotidien et travailler effectivement sur l'intimité. Faut quand même avoir une certaine maturité, je pense. Parce que la difficulté, c'est quand même d'aller vers la simplicité, quoi. C'est ça qui est paradoxal, et la simplicité, c'est effectivement ce qui nous entoure, quoi. C'était un cinéaste chinois, là, que j'étais voir, qui s'appelle Yazhang Kye, qui a fait un film qui s'appelle In Public. Il a tenu une conférence qui est extraordinaire, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a dit une phrase superbe, il a dit, en fait, par rapport à son film In Public, que sa manière de filmer, ça l'avait rendu calme, libre et sentimentale. Je pense que pour pouvoir, disons, filmer effectivement le réel, les choses qui nous entourent, il faut avoir ces trois qualités.
Je fais un travail similaire. Moi, je fais des films depuis l'âge de 6-7 ans, et c'est des petits films de famille, au départ, en 8 mm, et filmer image par image, et avec la famille, le chien, des objets animés, et puis j'ai toujours filmé mes amis parce que je ne savais pas quoi filmer sinon. J'aimais bien filmer, mais je m'en foutais de pourquoi je filmais ou ce que je filmais. Donc j'ai ramassé plein de bobines sans savoir trop pourquoi, et c'était une pratique, comme ça, de filmer tout le temps. Et quand j'ai découvert le cinéma de John Smith, je me suis dit, ah tiens, c'est un exemple de ce que je pourrais faire moi de mes bobines. Il a fait pareil. et j'ai vu Walden, et c'est ça qui est vraiment déclenché quelque chose, parce que ça dure 3 heures quand même, et c'est pas ennuyant. C'est pas ennuyeux, donc c'est sa voix littéraire, c'est la manière de filmer des gens. Je crois que ce qu'il a découvert dans le cinéma, c'est le fait de faire quelque chose de tellement personnel que finalement il descend à l'intérieur de lui-même. Il touche une corde universelle au fond de lui-même qui résonne chez tout le monde.
Walden est le premier journal filmé de Jonas Mekas, composé d'éléments tournés entre 1964 et 1968. Présenté partiellement à New York en 1969 sous le titre Diaries Not Sketches, Walden est organisé en 6 bobines, elles-mêmes divisées en 6 fragments de quelques secondes à une dizaine de minutes pour une durée totale de 3 heures. Mekas filme avant tout son quotidien à New York, Central Park, ses excursions chez ses amis aux environs, et les événements de son quotidien comme l'ouverture de cadeaux de Noël, des ouvriers s'attelant à la destruction d'un immeuble, ou les bureaux du Village Voice, le journal auquel il participe. Walden est aussi une peinture de la nouvelle scène artistique, culturelle et politique underground, ou alternative du moins, du New York des années 60. On peut y croiser des personnages aussi divers que John Lennon et Yoko Ono, Andy Warhol, les Velvet Underground, Sidney Dreyer ou Barbet Schroeder pour les cinéastes, les Hare Krishna défilant en chantant, une réunion des Creeping Cripplack ou un sitting au Woman Strike for Peace.
Mekas filme à la manière d'un anti-documentaire, je dirais. Certes, son journal se base sur des événements réels, avenus et importants, mais ce qui l'intéresse et ce qu'il nous montre, c'est sa vision à travers sa caméra et ses émotions de son quotidien. Il introduit des éléments autobiographiques en se montrant quelquefois à la caméra, mais il est plus spectateur qu'acteur réellement impliqué. Il ne prend pas parti politiquement, ne juge pas les manifestations, ne milite pas. Ce qui est important, je pense, c'est le langage qu'il utilise et sa vision particulière, toute personnelle des choses. D'autant plus qu'il décorrèle à l'écran le temps de l'action du temps de l'image. Il filme en accéléré souvent, à vitesse variable, utilisant l'image comme une palette de couleurs animées. Il utilise d'ailleurs les caractéristiques ou les limites de sa caméra, comme les flashs blancs au démarrage, comme des éléments à part entière de l'image. On voit à travers l'œil de Mekas, bien sûr, qui lui-même voit à travers l'objectif de sa Bolex. Le son, quant à lui, est en temps réel. Ce sont souvent des bruits de métro ou de train, des chansons qui rythment l'image, des fragments de conversation ou la voix off très particulière de Mekas. On retrouve cependant certains éléments qui le suivent tout le long du film, comme la neige, qui le fascine et qui lui rappelle peut-être la Lituanie, ainsi que les scènes de famille, comme les mariages, les enfants et les amis, et certains éléments du quotidien qu'il capte à travers une fenêtre ou au détour d'un chemin, les ouvriers nous avons vu au travail, un chat ou des crottes de lapin dans la neige. Parmi les fragments de son journal les plus marquants, on peut citer Cassis, Note on Circus, qui devient le film préféré sur le cirque des enfants de son ami Stan Brakhage, Creeping Kreplak, ou Warhol déboulant avec le Velvet dans un très sérieux congrès de psychiatres.
Some footage I took with my first Bolex. I wanted to make a film against war. I wanted to shout that there was a war. Because I walked the city and I thought nobody knew that there was a war. I thought nobody knew that there were homes in the world where people cannot sleep, where their doors being kicked in at night with the boots of soldiers and the police somewhere where I came from. But in this city, nobody knew it.
Comme disait Philippe Cotte un petit peu plus tôt, Jonas Mekas a eu un rôle prépondérant dans le développement des coopératives. Il a d'abord créé une coopérative à New York et cette idée a été reprise ensuite dans plusieurs pays, dont la France. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laurence ?
Les coopératives, au départ, c'est un regroupement d'artistes, de cinéastes ou de passionnés de cinéma qui travaillent ensemble totalement bénévolement la plupart du temps. Ils se retrouvent dans un lieu et ils s'organisent de manière à pouvoir réaliser leurs films, à démarcher de manière à avoir du matériel et à se réunir. Enfin, ça a quelque chose de l'association, mais c'est que des cinéastes en général qui s'aident les uns les autres pour pouvoir continuer leur travail dans des conditions qui sont habituellement difficiles. Enfin, je sais que Mekas, son travail à New York a jamais été simple, même aujourd'hui, son anthologie Film Archive survit difficilement. Enfin, c'est pas une institution solide. Et en France, à Paris, aujourd'hui, on est dans une période où le cinéma expérimental est très très vivant. Des coopératives, c'est-à-dire des associations, des regroupements de cinéastes entre eux pour faire des films, il y en a quelques-unes. Et on peut citer Braquage, qui est une association qui a plutôt pour mission de diffuser des films, de les faire connaître, de faire des ateliers pour faire travailler les gens, pour leur faire mettre la main à la pâte dans le cinéma expérimental, savoir ce que c'est que scratcher une image ou faire des images en Super 8. Donc c'est une association vraiment qui tente de faire partager son amour du cinéma expérimental et qui édite aussi une revue qui s'appelle Exploding, qui est passionnante, avec des textes souvent magnifiques sur les cinéastes expérimentaux ou sur des événements importants. Il y a aussi l'ETNA, une association qui était avant liée à Braquage et qui aujourd'hui a pour principale mission de former les gens techniquement à faire des films, à leur apprendre à toutes les techniques de cinéma expérimental et à leur donner un laboratoire. Donc c'est un lieu beaucoup plus pratique et technique. Et il y a aussi l'Abominable, là aussi un laboratoire en banlieue parisienne qui est tenu par Pip Chodorov. Et donc là encore, on peut pratiquer, faire des films de A à Z dans ce lieu.
C'est quelqu'un qui est très sensible et très très curieux avec une grande énergie. Donc déjà, petit fermier dans les champs, il découvre tous les noms de toutes les fleurs. Enfin, c'est déjà quelqu'un qui a envie de connaître et qui va partout. C'est peut-être un des seuls à vraiment aller chercher la poésie dans ce pays déjà appauvri. C'était son désir pour, en partant de là-bas. Et puis, il est arrivé dans les camps, il n'a pas arrêté de faire du théâtre, écrire ses journaux, écrire des poèmes, s'inspirer de gens autour de lui, apprendre plein de langages, chaque fois qu'il était en Allemagne ou avec des Italiens, afin d'apprendre la langue. Et puis aux États-Unis, c'était pareil, c'était une question de faire avec, d'aller vers les aventures. Et il a travaillé dans un studio de photographie, il a rencontré pas mal d'artistes, donc il a côtoyé quelques artistes comme ça au hasard. Et puis quand il a démarré Film Culture, c'est parce qu'il a connu des cinéastes qui étaient les mêmes problèmes que lui pour distribution. Et c'était une période où les gens, il n'y avait pas beaucoup de gens et c'était pas très populaire. Enfin, ils pouvaient se mettre ensemble et faire des choses ensemble. Et ça s'est évolué comme ça. Donc aux années 60, c'était la suite des années 50. Et il s'est trouvé là au milieu de. Et c'était aussi parce qu'il a mis chez lui le cinémathèque, enfin le coopératif des cinéastes et les projections. Les gens venaient chez lui, Warhol venait chez lui pour voir des films avant qu'ils se connaissaient. Donc il est devenu un peu une figure emblématique du milieu et qui ramassait des gens autour de lui, lui et son frère. C'est pas quelqu'un qui était vu tout de suite comme un héros ou comme une figure de la contre-culture. C'est juste quelqu'un qui montrait des films et qui faisait partie de ces cinéastes un peu marginaux qui essayaient de montrer leurs films. Et c'est quand il y avait les films de Warhol qui marchaient très bien qu'il y avait peut-être l'idée qu'on pouvait aller plus loin, qu'il pouvait y avoir un vrai contre-commerce qui n'a finalement pas marché du tout parce que le New American Cinema Group a fait faillite et la coopérative a continué comme aujourd'hui avec les moyens de bord. L'anthologie s'est faite aussi avec il y avait un seul mécène et qui est mort pendant la deuxième année de l'existence de l'anthologie et tout le monde pensait que ça allait fermer, mais ils ont su continuer, exister, mais c'est limite tout le temps. Il est contre la politique proprement dit, enfin, les votes, enfin, je veux dire, le système politique en général, c'est pas son truc. Mais il a une politique, bien sûr, d'agir là où il faut agir. Il a toujours fait ce qu'il croyait le mieux pour montrer des films. Et quand on dit les manifestes de ces années-là, c'est comme des manifestes politiques. Enfin, il dit par exemple, nous les cinéastes expérimentants, on se met ensemble parce qu'on a besoin d'avancer pour faire nos films. On n'a pas envie de faire de l'argent, on veut faire des films. Et on veut des films, on ne veut pas des films tout roses, on veut des films de couleur du sang. C'est comme des déclarations de guerre. mais c'est une certaine politique, c'est un certain socialisme. C'est plutôt en Europe où il est bien vu et bien considéré comme quelqu'un qui s'est toujours défendu. Parce que ses films ne sont pas connus aux États-Unis, c'est ici où c'est connu. Là-bas, il est connu pour avoir fondé Film Culture et pour avoir écrit sur le cinéma.
Thank you.
Chante Ulysse, chante ton voyage, dis où tu as été, dis ce que tu as vu, et raconte l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu quitter sa maison, qui était heureux et vivait parmi les gens qu'il connaissait et parlait son langage. Chante comme il a été jeté de par le monde. Ainsi commence le film Lost, 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 qui rassemble le matériel filmé entre 1949 et 1963. Ce film n'a été monté qu'en 1976, c'est-à-dire après Walden, et reprend un petit peu les mêmes principes que ce premier film. Il s'agit de la chronique des premières années à New York avec son frère, alors qu'ils viennent juste d'acquérir leur caméra Bolex. À cette date, il déclare « La période que je décris à travers ces 6 bobines de film fut une période de désespoir, de tentative pour planter désespérément des racines dans cette terre nouvelle, pour créer des souvenirs. À travers ces 6 douloureuses bobines, j'ai essayé de décrire les sentiments d'un exilé, mes sentiments pendant ces années-là. Elle porte le nom de Lost, 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 titre que nous voulions donner mon frère et moi à un film que nous voulions faire en 1949 et qui aurait suggéré notre état d'âme en ces temps-là. Le film décrit l'état d'esprit d'une personne déplacée qui n'a pas encore oublié son pays natal mais qui n'en a pas encore gagné un nouveau. La 6e bobine est une transition, elle montre comment nous commençons à respirer, à trouver quelques moments de bonheur. Une nouvelle vie commence. » On trouve donc des scènes de New York, l'année ça et là, au hasard de son errance, le monde ouvrier, la communauté lituanienne, puis la communauté artistique, avec notamment le roi Jones et Allen Ginsberg, mais aussi la création de la Filmmakers Cooperative.
I walked the streets of Brooklyn, but the memories, the smell, the sounds that I was remembering were not from Brooklyn.
Alors Mekas, c'est un cinéaste qui a filmé quotidiennement, quasiment quotidiennement, tout au long de sa vie depuis qu'il est arrivé à New York. Son style a beaucoup évolué au fil du temps. Au tout début, les premières images dans Lost, 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 on voit surtout des plans assez documentaires, assez longs, qui décrivent des situations. Et puis il y a toute une évolution où il intègre petit à petit toutes les possibilités de sa caméra. Et il va vers un travail beaucoup plus formel qui se rapproche de l'abstraction.
Oui, l'image de Mekas, pour ceux qui en ont juste entendu parler, c'est effectivement celle du diariste, de l'homme qui filme son quotidien, son entourage, un entourage souvent assez connu, donc attirant pour les spectateurs. C'est toujours des images marquante de voir Warhol ou ses amis de la Factory. C'est des images qui font l'histoire, donc qui ont une certaine importance en elles-mêmes, documentaires. Mais Cass est allé beaucoup plus loin que ça. Il a aussi travaillé sur d'autres aspects du cinéma et a fait un travail pleinement expérimental sur le film, qui n'était pas juste de faire des images de nécessité, ce qu'il faisait au début quand il est sorti de la guerre. C'était, on l'imagine, un besoin frénétique de filmer pour ne plus perdre ce qui lui appartient, pour ne plus perdre ce qu'il vit, pour garder en mémoire. Mais petit à petit, il a aussi fait de recherches sur l'image et il y a des films très 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 impressionnants comme Cassis ou Notes on the Circus qui sont de pures abstractions quasiment car les images sont très fragmentées, le montage est complètement saccadé, les plans durent pas plus qu'une seconde, deux secondes, trois secondes, c'est des plans très hachés et il y a plus d'action vraiment filmée, c'est en fait des lignes et des courbes qui se dessinent et ça devient presque du dessin filmé, c'est plus des couleurs, des notes de couleurs qui apparaissent, c'est musical, c'est complètement musical. Il n'y a plus d'histoire, on ne reconnaît même plus les personnages. Et dans Cassis, par exemple, il a posé sa caméra sur... on voit donc le port de Cassis, et la caméra bouge quasiment pas, et il va filmer pendant à peu près 24 heures. Le film dure à peu près 6 minutes. Et c'est donc en accéléré, monté de manière saccadée, donc on voit des bateaux qui apparaissent, disparaissent, le soleil qui bouge. Et c'est donc à la fin une espèce de mélodie de ce paysage, mais qui se dessine à travers lui. C'est plus vraiment le port de Cassis comme une photo, c'est une évocation de la lumière et des sensations qu'on a pu vivre à Cassis et que le spectateur ressent.
D'une manière un peu similaire, Notes on the Circus part d'une situation très documentaire, c'est-à-dire un spectacle de cirque. Et il suit avec sa caméra les mouvements des acrobates, les différents spectacles. Et il y a une espèce de discontinuité dans le mouvement qui fait que l'image est très très saccadée et que finalement le sujet devient abstrait. Et comme tu disais, ça se rapproche plus de taches de couleurs, de sensations très très abstraites, très très formelles.
Dans la plupart des films que j'ai vus, tout est mélangé. Il y a l'expérimentation pure et puis il y a le journal pris au jour le jour.
Nicolas Beaubert, tout journaliste. Est
refondu ensemble pour créer une sorte de portrait en creux de lui-même. Lui, il apparaît un peu dans ses films, mais c'est surtout tout ce qui l'entoure. Aussi bien ses relations avec les autres, tous ses amis, les autres cinéastes ou non-cinéastes, beaucoup de portraits de la nature. Il y a aussi cette mythologie américaine du Grand Ouest. Lui vient de Lituanie. Mais c'est aussi un pays de bois, de forêt, donc le fait de décrire peut-être les arbres comme des personnages, enfin toujours c'est du cinéma, du vivant, donc l'abstraction, je ne suis pas tout à fait sûr que le terme convienne bien à son cinéma. Pour lui, il y a l'importance donnée au vivant, même s'il transforme ça par l'image, mais cette présence, la présence est toujours là.
Il y a une trilogie, disons, il y a Lost, Lost, Lost qu'il a fait dans les années 50 qui concerne la communauté lituanienne en exil aux États-Unis. Donc là, il filme effectivement sa communauté. Ensuite, il y a Walden, qui est un peu plus centré, disons, sur le cinéma expérimental, toujours dans une vision communautaire. Et ensuite, donc, il y a effectivement le film là, que j'ai vu il y a 2 ans à la Cinémathèque, qui est beaucoup plus centré, en fait, sur ses proches, en fait, sur sa femme, sur sa fille et sur ses amis. Étant entendu que ses amis, ce sont des cinéastes, mais ils ne sont pas là en tant que cinéastes, mais ils sont là en tant qu'amis, quoi, amis du couple.
Il a passé des années sans travailler. Enfin, sur ce film-là, par exemple, Lost, 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 il a filmé entre 1949 et 1953. Il a fait d'autres films pendant ce temps-là et c'était des bobines qu'il mettait, tu vois, à part. Et quand il a fait Walden, c'est le premier journal filmé qu'il a fait. C'était des images de 64 à 68, montées en 69. Et après, il a fait Le Voyage en Lituanie en 71, qu'il a monté en 72. Et en 76, il est revenu sur des images d'avant. Pour une raison précise, parce que quelqu'un voulait qu'il fasse un film. Et là... Donc souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille très vite avec des vieilles images. Et comme ça, il peut être plus brutal avec lui-même, si je peux dire. Il peut éliminer, prendre 20 heures de rush, il élimine en 4-5 heures, il le peaufine, il élimine encore en 3 heures. Il aime bien travailler la nuit, après tout, parce qu'il a beaucoup de travail administratif aussi, programmation, anthologie. Donc, il rentre chez lui l'après-midi et il fait que ça, il travaille sur des films et jusqu'au petit matin quand il ne peut plus, mais c'est un travail assez rapide, je crois. Enfin, c'est un bon travail, réfléchi, mais c'est pas un travail qui prend des années, c'est un travail... Le film sur Lituanie, il a filmé pendant le voyage en juin-juillet 71. Et puis, il a oublié ces images. Et ce qu'il avait oublié surtout, c'était que c'était payé par une télévision allemande qui avait besoin de le passer. Donc, ils l'ont contacté en décembre pour dire « On a besoin de ces images parce que ça passe dans un mois. » Et on a besoin du film d'ici 2 semaines. Il dit, quoi? J'ai oublié. Donc, il a travaillé nuit et jour pendant 4-5 jours. Il a fait le film, tu vois, sans trop faire de choix. Il a fait ça vite, vite, vite. Il a fait le voix off, il a fait le montage. Et c'est un film magnifique que aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est toujours un film magnifique. C'est parce que c'est un poète de la spontanéité, et c'est quelqu'un qui réagit surtout sur le vif très très bien. Et c'est ça, je crois, que c'est comme quelqu'un qui fait la méditation pendant très longtemps, arrive à être tout le temps très illuminé.
Il y a une récurrence chez Mekas dans beaucoup de ses journaux filmés, c'est la neige. On a l'impression que c'est comme une réminiscence effectivement de cette terre en fait qu'il a, cette terre des origines. C'est aussi des constructions qui suivent le rythme des saisons. Si j'ai beaucoup noté ça. Et surtout enfin, des constructions qui sont assez cycliques, alternant à la fois, il y a une idée de disparition et de renaissance. Donc il y a vraiment cette idée-là de cycle perpétuel. Parce que c'est un cinéma qui est quand même très mélancolique, mais en même temps avec toujours un sursaut qui fait qu'on continue.
Il réagit à ce qu'il voit, à ce qu'il a autour de lui. Par moments, il ne peut pas s'empêcher de filmer parce qu'il faut capter ça. Il ne veut pas monter un scénario, trouver des acteurs. Il va juste porter les caméras avec lui tout le temps. Et dès qu'il y a un moment, quelque chose qui se passe, l'amitié, du vin, la musique, quelque chose, quelqu'un qu'il aime, bah, il filme. Et comme ça, il recorde des heures et des heures d'images. C'est un travail. Mais c'est plutôt le travail, disons, d'un musicien de jazz qui passe tout le temps à prendre son outil, la guitare par exemple, qui, le moment de jouer, il joue bien. Mais c'est parce qu'il a passé des années à s'accoutumer des astuces de la machine. Donc, par exemple, si il filme à l'intérieur et puis il sort à l'extérieur, il a l'automatisme de régler la lumière. Aussi, c'est quelqu'un qui travaille avec les défauts parfois. Par exemple, sur le film Réminiscence, il a remarqué que sa caméra avait du mal à démarrer. Et du coup, vous voyez comme ça marche la caméra. Quand ça tourne lentement, il y a plus de lumière qui rentre à chaque image. Donc il s'est dit, merde, il y a des flashs à chaque fois. Bon, je vais travailler avec ça et je vais travailler sur les flashs. Et du coup, il met ça dans son film. Donc il est toujours en train de réagir avec ce qui se passe et monter quelque chose en cohérence avec ce qu'il y a autour de lui. C'est pas rien de porter une caméra lourde pendant 40 ans et c'est pas rien de filmer image par image. Ça fait mal à la pouce. Et
c'est avec un déclencheur souple, c'est ça qu'on...
Non, c'est avec le bordax, il y a un manivelle sur le côté où on appuie. Si on tire vers soi, ça fait rrr, et si on pousse vers l'avant, ça fait clic, clic, clic. Et c'est fatigant. Hein.
Il y a un film qu'il avait fait pour le centenaire de la naissance du cinéma, et qui était un film qui tournait entièrement sur le cinéma expérimental, enfin sur la communauté du cinéma expérimental. Et c'est vrai que ça commençait comme... Ça allait par la démultiplication. C'était très intéressant parce que la forme était allée vers la démultiplication et la fertilisation. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais quelques personnes qui ensuite engendraient d'autres personnes. Enfin, il y avait comme une espèce de mouvement en expansion. Et ensuite, ça se terminait effectivement par l'apparition des enfants et par une vision complètement planétaire, très, très universelle en fait, des choses.
Je le vais,
Vous me demandez mon point de vue? Mon point de vue, comme si j'en avais un. Je suis enraciné dans le néant. Vous allez dans des écoles et vous apprenez à décrire, à formuler la réalité qui vous entoure, les objets, les dates, les événements. Mais moi, je ne garde trace d'aucun d'eux. Ça ne me gêne pas que vous me traitiez d'ignare. Je dépose en moi tout ce qui se présente sans y penser, sans dessein. Je jette le tout dans le chaudron de la sorcière et je touille, en espérant que cela donnera naissance à quelque chose. La plupart du temps, il n'en ressort absolument rien. Mais vous voulez connaître mon point de vue, mes réponses. Je n'ai pas de réponse. Quand je me laisse aller, je dis seulement ce qui me vient sur le bout de la langue, sur l'instant. Parfois ça vient, parfois non.
Jonas Mekas, en 1948.
Somewhere at the end of Atlantic Avenue, somewhere there, they used to have their picnics. I used to watch them, the old immigrants and the new ones. And they looked to me like some sad, dying animals in a place they didn't exactly belong to, in a place they didn't recognize. They were there on the Atlantic Avenue, but they were completely somewhere else.
Il parle très bien, il est très éloquent et je pense que il écrit beaucoup et je pense qu'il prépare un minimum ses dialogues. Mais et parfois il lit ce qu'il avait déjà écrit auparavant. Mais souvent il met le magnétophone en marche et il parle comme s'il parlait à une amie. Je pense pas qu'il regarde les images en même temps parce que ça ferait du bruit et il n'a pas les matos studio de mixage. Enfin, je pense que il sait très bien ce qui se passe à l'image. Il sait très bien ce qu'il veut faire passer comme message. Et je pense que c'est plutôt la pratique de boire quelques verres de vin, lancer le truc et de parler. Peut-être que parfois ça marche pas, j'en sais rien. Mais je sais que dans son dernier film en 16 mm qui s'appelle As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, qui dure donc 5h30, dans chaque bobine, dont il y en a 12, il y a un moment où il parle pendant 4-5 minutes et c'est très vif. Enfin, j'entends très bien, il parle, c'est 3h du matin, il est tout seul dans la chambre de montage, il parle à personne, il parle à tout le monde et c'est complètement spontané.
Déjà, il n'avait pas un rond, donc avec sa petite caméra Bolex, il faisait ses trucs avec ses amis, et il a toujours gardé cette liberté. Il n'y a pas vraiment de volonté d'expérimenter. Enfin, je pense pas qu'il se considère comme ça. C'est le fait d'être libre, de mettre sa personnalité. Plusieurs de ses films, d'ailleurs, il appelle ça des lettres. Il écrit, il se sert de sa caméra. Il n'est pas expérimental dans le sens où il retourne à la matrice du cinéma. Donc, tout se crée au début. Donc, on peut dire que tout était expérimental au début. Vu que lui, il débarque comme ça, avec son ambition de faire des films... Puisque je suis aux États-Unis, la terre du cinéma, je vais faire des films. Il redécouvre tout. En ce sens, il est expérimental. Mais il n'en a pas le désir ou pas vraiment la conscience. C'est le fait, je filme tout ce que je vois. Et ça, par une coup de baguette magique, de bolex magique plutôt, ça va devenir une sorte de mythologie.
And cure his heart. Down he sins of street
costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. The boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
In the background, those are the steps of the filmmaker. In the background, those are the steps of the filmmaker as he walks the city day and night, day and night. In the background, the music of the people. in the background, those are the voices of the children of the people. In the foreground, those are the cameras of the filmmakers.
C'est l'histoire de langue, quand il a appris des langues, parce que quand il était petit en Lituanie, il a donc appris à parler lituanien, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il habitait au nord de Lituanie, où il parlait un dialecte peu connu. Donc il a appris le Lituanie de ce dialecte-là, de son village. Et puis après, il y a des Russes qui sont arrivés en disant, il ne faut plus parler lituanien, il faut parler russe. Et une fois qu'il a appris le russe, et les Allemands sont arrivés en disant, il ne faut plus parler russe, il faut parler allemand maintenant. Et c'est là où il est parti. Et il est arrivé à Hambourg, donc il s'est dit, bon, bah, puisque je suis là, je vais apprendre l'allemand. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a appris le Plattdeutsch que tout le monde parlait à Hambourg, et pas le vrai Deutsch international, mais ce dialecte du Nord. Et puis dans les baraques, il y avait des soldats italiens, donc il a décidé d'apprendre l'italien. Et puis c'était des Siciliennes, donc il a appris encore une fois un italien de peu d'usage. Enfin. Donc quand il est arrivé enfin à New York, il parlait toutes les langues mal, il a dit, j'en ai marre, j'ai fini, je vais plus apprendre de langue, c'est fini, je vais faire des images. Parce que c'est une langue universelle. Donc il prend la caméra et avec ses amis, il court partout, ils font des images et ils filment comme ça, ils sont très énergiques, ils font des images. Et après, ils sont venus montrer ses films, rencontrent des autres cinéastes, ils montrent des films et les autres cinéastes, les vrais cinéastes, entre guillemets, ils disent, mais on comprend pas, qu'est-ce que c'est que ces images-là, on comprend rien. Et il dit, j'avais compris que j'ai appris la mauvaise langue de cinéma, l'avant-garde, c'était pas ça, c'était pas le langage dominant.
C'était Hors Champ. Merci d'être resté avec nous durant cette heure pour découvrir Jonas Mekas. Cette émission a été réalisée avec l'aide gracieuse d'Émilie, d'Ilke, de Marc, de nos invités Nicolas Bobert, Philippe Cotte et Pip Jodorov. Et je remercie Alain et Guillaume qui m'ont aidé à préparer cette émission.
Quelques livres et vidéos pour aller plus loin avec Jonas Mekas. Donc son autobiographie chez Paul Trafic, Je n'avais nulle part où aller, premier volume. Ensuite, un très beau catalogue de la Galerie du Jour Agnès B, Jonas Mekas, This Side of Paradise.
Enfin, vous pouvez trouver de nombreuses œuvres de Jonas Mekas, éditées en VHS, aux éditions Revoir, avec notamment Lost, Lost, Lost et Walden, en coffret de deux VHS, avec un magnifique livret. Vous pourrez aussi retrouver de nombreuses informations sur ces éditions Revoir, sur les différentes institutions du cinéma expérimental, tout ça sur notre site internet http://image.radiocampusparis.org.
Vous en êtes ? On est dans les temps ou pas?
Tu rigoles, on est vachement à la bourre.
Quoi?
Mais ouais.
Mais on va pouvoir terminer la journée quand même.
Bon, enfin, j'en sais rien du tout.
Et la cascade, où elle est?
Elle est retirée, elle s'est retirée à l'habillage.
Quoi? Bah, ouais. Va la chercher.
In most sex films, however, the viewpoint is strictly male. They're written by the male, directed by the male, and seen by the male.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Boop, boop, be-doo.